CFM, le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Le MAG du pays Midi-Quercy, une émission soutenue par le programme européen Leader et réalisée à CFM Caylus.
Bonjour à tous, le MAG du pays Midi-Quercy, aujourd'hui à propos d'héliciculture. C'est un reportage que nous propose Marie Brandy, la chargée de mission circuit court et alimentation au sein du PETR Midi-Quercy. Elle est allée à Genébrières et a rencontré un producteur d'escargots. Mais pour le moment, j'attends et j'accueille Émilie Plassard. La voici, la voilà. Première partie de ce MAG à propos du réseau des offices de tourisme en compagnie d'Émilie Plassard. Bonjour Émilie.
Bonjour Lisa.
On va voir un petit peu qu'est-ce que vous avez fait dernièrement et puis le programme des festivités de l'année prochaine pour 2020. D'un réseau donc d'offices, vous vous êtes mise en réseau. C'était quoi le but?
En fait, ça fait plusieurs années maintenant, le PETR du pays Midi-Quercy et les offices de tourisme, donc depuis la loi NOTRe, maintenant c'est les offices de tourisme intercommunaux, qui se sont regroupés depuis 2004 pour créer un réseau des offices de tourisme et travailler à la structuration en fait, du tourisme durable sur le territoire, en Midi-Quercy, Gorges-l'Aveyron. Voilà, chaque année, on met en place des plans d'action financés dans le cadre des fonds européens, Leader, et du coup, on met plusieurs actions en place sur cette structuration. Et sur l'année 2019, on a travaillé sur pas mal de choses.
Alors, à titre d'exemple
donc on a travaillé sur plusieurs choses. Déjà, on a fait un accompagnement sur l'année. Donc, on a fait plusieurs ateliers ensemble, en commun. Les conseils en séjour et le PETR du pays Midi-Quercy sur différents sujets, les éditions communes que l'on met en place, comme le MAG trimestriel, le guide découverte et la carte touristique. Donc on a travaillé là-dessus, on a travaillé également sur le numérique, donc sur les réseaux sociaux, sur des diagnostics numériques pour savoir la ligne éditoriale qu'on veut mettre en place sur ce qu'on va dire sur notre territoire au niveau touristique. On a travaillé également sur différents aspects un peu plus spécifiques, comme par exemple le no-tourisme, sur le Quercy Caussadet et le Quercy Vert Aveyron, les deux communautés de communes où ils ont été labellisés plutôt en mai. Donc on a travaillé là-dessus. On a travaillé également sur une grosse structuration. C'est le schéma d'accueil et diffusion d'informations. Puisqu'en fait, depuis la loi NOTRe en 2017 et depuis aussi les nouvelles mutations des actions en fait que font les conseillers en séjour sur les offices de tourisme, on a voulu remettre en place une nouvelle structuration sur notre réseau. Et du coup, on a travaillé sur ce fameux schéma d'accueil et de diffusion d'informations. L'idée, c'est de déployer des outils pour mieux diffuser l'information au niveau du territoire, à la fois pour les habitants, à la fois les prestataires qui diffusent et à la fois l'office de tourisme au niveau numérique et accueil physique. Voilà.
Ça, c'est pour 2019. Là, vous êtes en fin d'année, hein, 2020, se prépare doucement, complètement même.
Oui, c'est ça. Donc, on a présenté le vendredi dernier à tous les élus et au réseau, donc tout ce qu'on a fait au niveau de ce schéma d'accueil et diffusion d'informations. En 2019, l'idée, c'était de vraiment faire un état des lieux de ce qu'on avait au niveau de cet accueil. On va continuer. L'idée de 2020, c'est de continuer à faire ces actions, notamment chez les prestataires, aller voir les prestataires et leur demander leur attente vis-à-vis des offices, mais aussi savoir les transformer en relais d'information, leur donner des outils pour mieux relayer l'information, et aussi de préparer le hors les murs. Alors, le hors les murs, c'est d'aller à l'extérieur de l'office de tourisme, aller où est le visiteur pour lui donner des informations. On peut aller par exemple sur des événementiels où il y a beaucoup de personnes, et du coup l'office de tourisme sera là pour dire bon bah vous avez aussi ça à faire, vous pouvez aller là, vous avez c'est de sortir de l'office de tourisme, parce que on sait que les offices de tourisme n'accueillent pas toutes les clientèles, tout le monde ne vient pas à l'office de tourisme, donc l'idée c'est d'aller au devant des visiteurs. Et après, on va continuer l'accompagnement qu'on fait. Donc, sur 2019, on avait pas mal d'accompagnement d'ateliers. Et l'idée, c'est de continuer ces ateliers de travail pour mettre en place des actions concrètes. Par exemple, la stratégie hors les murs, mise en place d'une charte d'éco-responsabilité pour mieux pour répondre au tourisme durable. au niveau des offices. On va continuer les actions qu'on met en place avec le Tarn-et-Garonne Tourisme. Par exemple, on va au salon de Toulouse en mois d'avril pour demander aux Toulousains, venez chez nous, il y a beaucoup de choses à faire. La poursuite aussi des éditions communes, donc ça, on continue à le faire. Et on va peut-être mettre en place, on va voir, une chronique à la radio, si c'est possible, je ne sais pas, on verra.
Mais moi non plus, je sais pas.
Avec les offices de tourisme pour mieux valoriser leurs actions.
D'accord, bah, du coup on en reparle après l'émission.
Exactement.
Merci beaucoup.
Donc il y a plusieurs propositions d'actions comme ça qui ont été faites et qui seront validées. Ouais.
Ou pas. Du coup, merci. Elle me met devant le fait accompli, quoi.
Pardon.
Ça, c'est pour le programme 2020 du réseau des offices intercommunaux au sein du PETR Midi-Quercy. Émilie, vous pouvez nous parler un petit peu de votre travail? Vous faites quoi, en fait? Je ne vous ai pas présenté.
Oui, alors moi, je suis chargée de mission sur le pôle de pleine nature des Gorges de l'Aveyron, à 50% de mon temps. Donc, c'est tout ce qui est structuration des activités de pleine nature. Et 50% de mon temps sur l'animation leader, donc tout ce qui est fonds européens et qui correspond aussi à des fonds européens liés au tourisme. Voilà.
D'où le lien, d'où votre présence aujourd'hui dans ces studios.
Exactement.
Un grand merci, du coup, Émilie Plassard. Et puis, du coup, on va discuter de ces chroniques.
Ok, super.
À bientôt.
Merci à toi. À bientôt.
Darwin avait raison, c'est la pause musicale de ce mag de Féloche. Après, on partira à Genébrière parler escargots, circuit court, alimentation directement dans l'assiette des escargots.
Darwin avait raison, je ne suis plus un loup, je ne suis plus qu'un chien fou qui garde la maison. C'est mon évolution, je me suis trouvé un nom. Féloche est un poisson, Darwin avait raison. À la branche, suspendu aux questions. Rien dans les poches, rien dans les manches. Darwin avait raison. J'étais plus bête, demain je serai moins bon. J'ai qu'une tête et demain Darwin avait raison. Darwin avait raison, j'ai quelque peu changé. Changé de religion, lunettes et pantalons. J'ai travaillé au charme, fait la révolution. Féloche a pris le zar. Darwin avait raison.
La vie du pays Midi-Quercy.
Les circuits courts, bonjour. Aujourd'hui, je vous amène à Genébrière, au clos Jouan-la-Garde. Donc, c'est un élevage d'escargots. Comment ça s'appelle déjà, les élevages d'escargots?
Ça s'appelle l'héliciculture. Et moi, du fait, je suis héliciculteur.
Il y a combien d'escargots?
Moi, actuellement, je mets en parc à peu près 200 000 escargots, mais je ne vis pas, je ne prétends pas vivre de l'escargot. Hein. Je suis agriculteur, je suis éleveur de blonde d'Aquitaine. C'est ma principale activité. L'escargot, c'est un truc nouveau qu'on a installé parce qu'on avait peut-être un peu de lassitude avec les vaches et avec ce qu'on faisait. Moi, j'aime bien changer, amener des trucs nouveaux et avoir des nouveaux challenges. Et que je ne réussis pas forcément. Mais bon, l'escargot, en tout cas, ça occupe une personne à plein temps, ma femme, pour la cuisine. Et il y a 200 000 escargots en parc, mais on en ramasse à peu près 100 000 parce qu'il y a quand même beaucoup de pertes. Hein. Surtout ces dernières années avec la canicule. Donc vous voyez, un parc de 100 000 escargots avec environ 300 escargots au mètre carré, c'est à peu près la densité. Il faut, avec 400 mètres carrés, vous avez à peu près un parc. Donc moi j'ai trois parcs, et trois parcs parce qu'après je mets en jachère une partie des parcs, donc je lâche à peu près 200 000 escargots. On a un autre handicap dans la région, c'est que si vous voulez, l'escargot c'est très culturel. Donc dans des régions, on mange du petit gris, tout ce qui est au bord de la mer, les pays de Loire, enfin la Charente, le Bordelais, ce n'est que du petit gris, y compris dans les Catalans, le bord de la Méditerranée, là c'est du petit gris, et dans tout l'est de la France, et le nord de la France, c'est le gros gris, autrefois c'était le Bourgogne, bon, en élevage ça a été remplacé par le gros gris, qui est beaucoup plus tendre et beaucoup plus goûteux, et donc ça m'oblige ici, puisque je suis ni d'une région ni d'une autre, et que la population est toute mélangée, et qu'il n'y a pas vraiment une culture de consommation d'escargots, ça m'oblige à avoir les deux races. Donc forcément j'ai un demi-parc pour les petits gris, et après un parc et demi pour les gros gris.
En fait, ils se mélangent pas, les escargots, c'est ça? Ou c'est vous qui les mettez chacun d'un côté pour pas qu'il y ait de croisement
Mais c'est deux races cousines, mais qui sont pas pareilles. On utilise le petit gris pour la cuisine en sauce, les escargots à la catalane, à la bordelaise, en salade, enfin, etc. C'est des escargots plus petits, c'est des escargots qui sont autochtones, quoi, communs de nos jardins, hein, on le connaît tous. Et pour l'élevage, et les escargots qui vont finir en escargots farcis à la sauce bourguignonne traditionnelle, là, c'est une race qu'on est allé chercher en Afrique du Nord. Et c'est le cousin exact du petit gris, mais en plus gros. Voilà, il est le double plus gros. Et il s'élève facilement, alors que le Bourgogne, lui, ne s'élève pas, ou très difficilement. Et puis aussi, économiquement, il n'est pas du tout rentable parce qu'il met 2-3 ans à pousser. Alors qu'en élevage, on arrive à faire pousser un escargot en 120 jours, en 150 jours. Et aussi gustativement, il est quand même beaucoup plus tendre. Voilà pourquoi on fait le gros gris. Tous les éleveurs de France font du gros gris aujourd'hui.
Parce qu'en fait, il y a des saisons pour les escargots. Alors, ça pousse déjà, je ne savais pas que ça poussait, les escargots.
Disons, l'escargot, ça, c'est pas un hasard si c'est le symbole de la décroissance, parce que l'hiver ça ne fait rien et l'été ça fait pas grand chose non plus, parce que ça estive, l'été ça estive, et l'hiver ça hiberne, vous voyez.
Donc estiver,
ça pousse un petit peu à l'estiver, c'est-à-dire qu'il s'endort l'été parce qu'il fait trop chaud, parce qu'il y a du vent, il préfère dormir, enfin ça, et parce qu'il pleut pas. S'il pleut pas pendant 6 mois, l'escargot ne va pas bouger de sa coquille, quoi.
Donc là, ils doivent être à fond, en fait, en ce moment, non?
Et là, ils sont en hibernation. À partir du mois de novembre, ils commencent à hiberner. Donc la saison la plus propice pour l'escargot, ici, c'est de mars à juin. Après arrivent les canicules, et après, ça va aller décroissant en fonction du jour qui diminue. Donc après, ils ne poussent pas tellement au mois d'août, il fait trop chaud, septembre, idem, et après une petite reprise à l'automne, mais ce n'est pas là que l'escargot pousse. En fait, vraiment, c'est 2 mois de mars ici, hein, au mois de juin. Voilà, c'est pour ça qu'on a un peu de mal, parce qu'on a appris, nous, plutôt dans l'est de la France. Évidemment, il n'y a que deux écoles en France pour apprendre l'escargot. Donc moi, j'ai appris dans le Doubs et ma femme à Chambéry. Et du coup, tout ce qu'on nous a dit, c'est un peu à remis en question ici, parce que ça ne marche pas comme ça ici.
Mais du coup, vous faites comment l'été ? Alors, vous les arrosez ou vous les mettez au frais ? En fait, comment vous faites ?
C'est-à-dire que, bon, pour qu'ils poussent et qu'ils sortent chaque soir, donc de mars à juin, juillet, on est obligé d'arroser un petit peu, de mettre une rosée chaque soir, ça les fait sortir. Là, ils vont consommer des plantes qu'on a semées dans le parc. Alors, à savoir, moi, je mets du trèfle, de la luzerne. Et l'escargot ne mange pas de graminées, il lui faut des protéines, donc c'est plutôt des plantes avec des protéines, ou alors dans d'autres endroits on sème beaucoup de crucifères. Donc l'escargot, les crucifères, bon, c'est les choux, les radis, toutes ces plantes.
C'est ce qu'il mange dans mon jardin en fait, c'est ça.
Voilà. Le colza, tous ces trucs-là. L'escargot, vous ne le verrez jamais manger, ou très rarement, il faut qu'il ait très faim pour manger une... de l'herbe, quoi, en fait. Non, c'est toujours des légumineuses. Donc, alors, une base de semis de légumineuses pour faire pas le paillage, mais enfin, l'environnement propice, quoi. Beaucoup d'ombre. Et alors, après, c'est additionné avec de la farine de céréales, alors, complet, avec des protéines et surtout du calcium pour faire pousser la coquille. On a besoin d'avoir une coquille solide, donc ça, c'est aussi important que la chair. Si la coquille n'est pas finie, on appelle ça la coquille bordée, si elle n'est pas dure, elle n'est pas cuisinable. Donc c'est à un moment donné, ça arrive à maturation, quand cette bordure est devenue toute nacrée et solide, et ça va être le début du ramassage.
Et comment vous faites alors? Ils sont tous mûrs en même temps ou tous les soirs dans les 200 000 vous allez chercher ceux qui sont bons?
Non, ils ne vont pas être mûrs. Déjà, on va décaler les naissins, on appelle ça les naissins, les petits escargots. Alors moi, je ne fais pas tous mes naissins, j'en achète des naissins. Et on va faire un petit décalage, on va faire un demi-part, puis 20 jours après notre demi-part pour essayer de décaler un petit peu le ramassage. Et puis aussi parce qu'il y en a qui vont tomber avec de la canicule et qui peut-être ne survivront même pas. Donc il faut avoir un peu plusieurs parcs avec un décalage comme ça. Et là, après on le voit, quand l'escargot est bordé, on le ramasse le plus vite possible pour pas qu'il se remette. Après, il va se remettre à pondre. Il va être adulte et là, il va ne penser qu'à pondre. Donc se fatiguer, remaigrir, voire mourir aussi.
Parce que si je ne me trompe pas... Il n'y a pas de mallette femelle hein, chez les escargots. Non. C'est hermaphrodite, c'est ça hein.
Voilà. Donc là, il n'y a pas de gaspillage. On ramasse tous les escargots. Tous les escargots font des œufs. Donc ça peut aller très très vite après. Si on se laisse déborder, si on oublie de ramasser des escargots, on en oublie. Hein. On peut très vite après avoir une densité trop forte de petits et avoir que des petits, des tout petits.
Parce qu'on doit ils n'ont plus dépasser. Assez à manger après, c'est ça
Oui, ça fait un peu effet aquarium. S'il y a trop de nombres, après, ils restent petits.
Ah, oui. Oui. Pourquoi les escargots, en fait c'est étonnant comme idée. Personne n'en fait.
C'est justement parce que personne n'en fait que j'ai voulu le faire, oui. Parce que, alors là, la niche est toute petite, mais je me suis dit, si j'étais seul dans la niche, peut-être commercialement, j'arriverais à les vendre. Hein. Et en fait, oui, commercialement, on arrive à les vendre à condition de, voilà, d'être tout seul. Il faudrait, et parce que dans la région, il n'y a pas une grosse consommation. En plus de ça, on est concurrencé, bien sûr, par l'importation. En France, 96% des escargots viennent des pays de l'Est. Ils sont beaucoup moins chers parce que dans l'escargot, ce qui compte, c'est la main-d'œuvre. Il y a une main-d'œuvre pour le cuisiner énorme. Et donc du coup on a des escargots trois fois plus chers que dans les prix les plus bas, mais après nous on met les courbouillons, le beurre, tout ça c'est des produits frais, le persil c'est frais, on travaille pas avec de la poudre,
c'est pas la même qualité hein.
Voilà, donc c'est un créneau sur de la très haute qualité.
Vous adhérez à la charte du pays Midi-Quercy, donc on peut retrouver vos coordonnées dans le petit guide où il y a la biquette. Et également sur le site internet du pays. En plus, vous êtes géolocalisé dessus, donc c'est nouveau ça. Donc on peut, les gens peuvent vous contacter, prendre rendez-vous.
Oui, 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 tout à fait. À Noël, mais j'aime bien que les gens viennent. Bon, après, c'est un effort, et donc je comprends que la plupart ne fassent pas cet effort, mais c'est sympathique, ouais. Moi, ça me plaît, ouais. À part que, bon, je suis agriculteur, donc il faut m'appeler un petit peu à l'avance. C'est pas, voilà, c'est pas un magasin où on peut venir comme ça sans rien dire. Je suis pas forcément là, quoi. Et ma femme est au labo, donc... on peut pas, il faut appeler, réserver les produits que l'on veut acheter et appeler avant d'arriver.
Par mail aussi peut-être?
Par mail, oui. Ce matin j'ai eu des réservations par mail. Ça marche pas mal. Et après, bon, on peut aussi dire les produits que je fais. Donc on fait le petit gris, alors en sauce, enfin fini de préparer en sauce, mais on le vend aussi courbouillonné, on le vend aussi juste blanchi. Donc si vous voulez, il y a toute une échelle de prix, hein, en fonction du temps de préparation. Et pour les gros gris, c'est pareil, on fait du gros gris vivant jusqu'au gros gris, blanchi, courbouillonné. Ça, c'est pour les restaurants, des choses comme ça, ou même pour des gens qui veulent finir se les farcir eux-mêmes, ou qui ont une sauce bien particulière. Et jusqu'à l'escargot, tout préparé à la bourguignonne, ou des croquis d'escargot, ou des tapas, ou des escargots en brochette. Enfin, on a tout un tas de produits, quoi.
Donc, vous pourrez retrouver... les produits du Clos Jouan-Lagarde sur donc le petit guide du Pays Midi Quercy sur internet. Vous avez un site?
Non, j'ai pas de site, mais il y a un Facebook, les escargots du Clos Jouan-Lagarde. Après, il y a surtout, je vous dis, les petits magasins, le Carré Tout à Montauban, au Soleil du Midi à Caussade. Je me rappelle plus tous mes petits magasins, mais bon, il y en a même à Parisot, c'est une petite épicerie sympathique. Et pour l'instant, voilà, c'est tout. Mais on me retrouve après tout l'été sur les marchés gourmands du pays, quoi.
Ben, je vous remercie beaucoup, Monsieur Lagarde, de m'avoir accueilli. Et je vous souhaite de bonnes fêtes, du coup.
Merci. Je vous remercie. Au revoir.
Grands escargots, alors. Au revoir.
Un reportage de Marie Brandy que vous pouvez retrouver en podcast sur cfmradio.fr dans le mag du Pays Midi Quercy. De très bonnes fêtes à tous. Salut, à bientôt.
Le mag du Pays Midi Quercy, c'est tous les lundis à midi, rediffusion à 17h et le samedi à 18h. Et en podcast sur cfmradio.fr.